Bonsoir. Des opérateurs miniers du Grand Katanga ont encouragé vendredi 17 juin dernier les initiatives de production de l'énergie électrique pour ce secteur dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ils ont exprimé cette requête au cours de la 19e édition du forum minier dénommé DRC Mining Week, tenu pendant 3 jours à Lubumbashi et qui s'est clôturé le week-end dernier. Une requête qui, pendant ce forum, a occupé une place de choix, selon le directeur général adjoint chargé des relations extérieures de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Ce déficit fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises minières en République démocratique du Congo et à l'État congolais. Pour lui, si les miniers devaient dépendre de l'importation de l'énergie, ils dépendraient également des caprices des pays extérieurs. Quelle lecture faire de la problématique du déficit en énergie électrique dans le secteur minier en RDC? Qu'en faut-il pour y remédier définitivement? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Eric Bonga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, également développeur privé dans le secteur énergétique dans un projet de 150 MW. Eric Bonga, bonsoir.
Bonsoir.
Et également attendu, on espère l'avoir, Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, également fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Franck Fouamba va certainement nous rejoindre dans cette émission. Et enfin, pour clôturer la composition de ce soir, Damien Twambi Langana, directeur général adjoint de la structure ANSER. Damien Twambi Langana, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
À tous donc, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La 19e édition de la DRC Mining Week, ou semaine minière de la RDC, s'est clôturée vendredi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Au cours de ce forum économique de 3 jours, la question du déficit en énergie électrique pour les miniers a pris une place de choix pour Tenke Fungurume Mining, TFM en sigle. Ce déficit fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises minières et à l'État congolais, d'où cet appel lancé par son directeur général adjoint chargé des relations extérieures, Hugo Siza, qui est au micro de Jean Gandou.
Mais il faut qu'on prenne conscience que chaque jour que nous perdons à produire 1 MW de plus, c'est des millions de dollars que nous perdons. Nous les perdons pour les communautés, nous les perdons pour les pays, nous les perdons pour les sociétés minières. Il faut donc à un moment donné que nous puissions avoir une synergie, une dynamique, qu'on mutualise les efforts et qu'on trouve des solutions pour avoir de l'électricité. La Zambie a connu un problème avec les baisses des eaux, la sécheresse. La première décision que la présidente zambienne a eu à prendre, c'était de couper l'exportation d'énergie. Et donc, si nous devons dépendre de l'import de l'énergie, nous dépendons des caprices des autres pays. Il faut donc qu'on encourage les Congolais, qu'on encourage l'initiative privée au Congo et produire de l'énergie. Il est donc important qu'au niveau du gouvernement, qu'on prenne conscience, qu'au niveau du secteur privé, nous, au niveau de la Chambre des mines, nous avons pris conscience et nous allons continuer à faire des réflexions, mais on doit quitter la réflexion vers des actions concrètes. Or, aujourd'hui, nous allons chercher de l'énergie au Mozambique, en Namibie, alors que nous avons Inga qui a la capacité d'électrifier toute l'Afrique. Il faut qu'on prenne conscience. Autant on organise des réflexions sur les mines, sur la sécurité et autres, il faut qu'on ait des états généraux sur l'énergie, mais que ça soit des réflexions, des actions concrètes.
Eric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, également développeur privé dans le secteur énergétique, dans un projet de 150 MW. Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission. Bien évidemment, nous allons nous focaliser sur la préoccupation majeure qui a été soulevée lors de cet événement que nous avons évoqué en introduction de notre émission. Problématique assez récurrente en République démocratique du Congo, à laquelle font face les entreprises minières. Mais avant d'arriver à cette thématique qui va nous préoccuper jusqu'à la fin de l'émission, nous allons essayer d'éclairer un peu ce quoi l'événement qui a conduit notamment à ce constat. DRC Mining Week, qui est à sa 19e édition, mais qui est assez peu connue en République démocratique du Congo. En quelques mots, est-ce que vous pouvez éclairer à nos auditeurs c'est quoi cet événement, la DRC Mining Week, à quoi ça sert? Et particulièrement, cette édition, on peut retenir quoi de plus essentiel en dehors de la problématique du déficit énergétique brandi et proposé pour cette édition aussi.
Merci beaucoup pour la question et je voudrais quand même vous rappeler que c'est la 19e édition, anciennement connue sous le nom de IPAD RDC, qui s'était née dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, qui était ça, Lubumbashi. Et puis, à un certain moment, avec l'accompagnement de la Fédération des entreprises du Congo, on a dû regrouper ça pour faire un gros événement minier au niveau de Lubumbashi. Et ce, à l'origine de cela, c'est que la plupart de ces acteurs du secteur minier se retrouvaient à une conférence qu'on appelle Mining Indaba au niveau de Cape Town. Et dans cette conférence, on parlait beaucoup plus des mines aussi du Congo. Et la journée Congo était très, très enrichie. Alors, pourquoi ne pas le faire à l'intérieur du Congo? Et justement, ça a été localisé à Lubumbashi. Et ça devient un carrefour d'une conférence très importante. Cette 19e édition a vu une affluence exceptionnelle. On avait plus de 5000 visiteurs dans la ville de Lubumbashi. D'ailleurs, pour ceux qui savent, tous les secteurs étaient comblés, surtout le secteur hôtel, restaurant, café, donc le tourisme aussi était aussi comblé. Et autour de là, il y a eu une gravitation, je peux dire une gravitation, de plusieurs secteurs autour de mines qui se sont fait valoir. C'est ça même l'essentiel de cette conférence. Montrer qu'il n'y a pas que le secteur minier qui peut être le moteur de l'économie en RDC, et aussi tous les secteurs qui peuvent graviter autour du secteur minier. Et c'est une grande chose, parce que nous avons su montrer, c'est que le secteur minier congolais peut faire, le secteur de la sous-traitance peut faire, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire, et aussi quels sont les écueils qu'il y a dans ce secteur minier. Et parmi les écueils, hormis la logistique, il y a eu aussi l'énergie. C'est ainsi que nous nous sommes focalisés aussi sur l'énergie.
Nous abordons l'énergie tout à l'heure, mais vous avez évoqué les avantages, ce que ce secteur était et ce qu'il peut apporter en RDC. Alors, en clôturant la 19e édition, est-ce qu'il y a des actions concrètes d'argent qui vont rentrer dans les caisses du trésor public de la RDC, notamment à la suite de cet événement ou pas, concrètement?
Nous avons évoqué dans ce secteur, dans le panel où nous étions, c'est que l'État congolais ne doit pas se comporter en un opérateur économique qui n'a qu'une vision financière. Il doit avoir une vision long terme. Ça veut dire ceci, poser des actions aujourd'hui, peut-être avoir une illusion de perte, mais ce n'est pas une perte, pour que dans 5 ans, 10 ans, l'État puisse gagner par l'effet induit de ce qu'il pose aujourd'hui. Aujourd'hui, le discours qui est là, toujours le gain de l'État, ça tue notre économie, ça tue les investissements, ça tue tout ce qu'il y a comme initiative. Aujourd'hui, on doit penser aussi à savoir que aujourd'hui, l'État doit agir pour promouvoir un secteur pour que, après X années, ça puisse lui donner de l'argent. Pas tout de suite. Après X, c'est ça la vision économique que nous voulons promouvoir.
Alors nous verrons.
Et ça, beaucoup accès là-dessus.
Nous allons voir si nous pourrons revenir tout à l'heure sur les autres détails qui intéressent l'opinion et qui intéressent les intérêts de la République démocratique du Congo. Venons-en d'abord à ce stade à la préoccupation majeure qui soulevait notamment par ce forum. Comment en est-on arrivé à ce que les entreprises minières en RDC, qui est un secteur bien connu en RDC, qui existe depuis même l'époque coloniale, l'exploitation minière, les entreprises minières ont toujours été des investissements importants à faire. Comment en est-on arrivé à ce qu'en 2024, on se pose la question de l'absence de l'énergie pour les entreprises minières en République démocratique du Congo? Et quel est réellement ce problème de déficit?
Monsieur, je voudrais insister sur le fait que c'est une question de vision. Vous ne devez pas me dire que c'est pour ça que c'est très important la vision économique. Je me rappelle très bien, en 2016, lorsque, 2 ans après avoir mis en action la libéralisation du secteur de l'énergie, l'État congolais nous avait promis de l'énergie pour produire plus de 2 millions de tonnes de cuivre. Je me rappelle bien, le métal, c'était le cuivre, et que tout le monde serait allé, tout le monde aurait cette énergie pour produire. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, 10 ans après, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas une nouvelle capacité d'énergie, à part 2 centrales, Zongo 2 et Boussanga, qui sont d'ailleurs, qui n'ont même pas un effet significatif, parce que l'État n'a pas eu cette vision-là. C'est pour ça que vous devez prendre en compte cette vision économique de l'État. De investir aujourd'hui pour produire demain, non pas gain.
Alors Eric Monga, vous êtes toujours avec nous?
C'est très important. Je suis avec vous.
Alors, pour que nos auditeurs nous comprennent beaucoup plus facilement, oui. Les entreprises minières, oui. On va essayer de faire un peu les calculs, hein. désolé, de soumettre les auditeurs peut-être à des choses qui sont généralement pas faciles à comprendre, mais on va se débrouiller. Les entreprises minières en RDC, les entreprises minières en RDC ont besoin de quelle quantité d'énergie pour travailler tranquillement? Et au jour d'aujourd'hui, la RDC leur fournit quelle quantité?
Avec toute la bonne foi du monde, lorsque la RDC va donner le maximum, on n'aura que 2 millions et 2,4 gigawattheures. Gigawatts d'énergie fournie. Or, nous avons besoin de plus de 10 000 pour l'instant. Et c'est ainsi que nous perdons toutes les années au moins 1 milliard de dollars parce que nous n'avons pas suffisamment d'énergie pour produire, pour donner. Parce que vous ne voyez pas seulement le secteur minier, parce que le secteur minier, il y a directement aussi le secteur industriel et aussi le secteur social qui sont liés. Et que nous perdons toutes les années parce qu'on n'a pas eu d'investissement. On n'a pas investi. Je peux vous dire, le dernier barrage qui a été construit, par exemple, je prends le pôle sud, le Katanga, avant Boussanga, c'était il y a 65 ans. Je ne crois pas que moi j'étais né encore à cette période-là, mais il y a 65 ans qu'on a construit le dernier barrage. Du côté ouest, du côté, à part Inga 2, qui a été construit en 1982, faites le calcul, plus de 37 ans. Qui a eu Zongo, après 37 ans, il y a eu Zongo. À part Mobile Bongo, du côté nord, qui est d'ailleurs en mal de fonctionnement. Mais par contre, pendant tous ces temps-là, l'évolution de la population, l'évolution des besoins, l'évolution de l'économie, qu'est-ce que nous avons fait?
Mais Eric Monga, ce problème de déficit énergétique, d'insuffisance d'énergie pour les entreprises minières en RDC, se pose depuis combien de temps déjà?
Depuis le jour où on a pu commencer à construire les barrages, les nouvelles capacités des barrages.
Vous voulez dire depuis plus de 30 ans?
Beaucoup plus de 30 ans. On devait chaque année.
Et comment ces entreprises...
Chaque année, on commençait à construire au moins 400 mégawatts.
Et comment ces entreprises ont-elles...
La dernière fois que nous avons exporté, c'était en 2010. 2010 que nous avons exporté. Depuis 2010, nous ne sommes que des importateurs d'énergie. On a, à la Coupe du Monde, je me rappelle, la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, c'est quand la dernière fois qu'on a exploité l'énergie. Et comment est-ce qu'on peut exploiter? Oh, la pression de la population augmente. Les besoins énergétiques augmentent. On ne doit pas faire fi de ça.
Alors, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que le problème a pris cette dimension qui est.
2010, je fais 14 ans.
Oui, vous l'avez dit, ça fait ce temps-là que le problème a pris cette dimension beaucoup plus préoccupante. Est-ce que le gouvernement le sait? Est-ce que le problème a été présenté, posé, insisté, comme ça a été à la 19e édition de DRC Mining la semaine dernière?
Le gouvernement, là-dessus, a commencé à faire la nouvelle loi pour libéraliser afin d'accroître les capacités. Il nous a sorti la classe. Ils nous ont sorti et après la loi sur la libéralisation et la classe, il y a eu 4 ans après. Donc ça veut dire il y a eu 4 ans pour mettre les institutions afin de permettre d'encadrer le secteur de l'énergie. Donc l'ARE l'enseigne. 4 ans et après 4 ans là, il fallait qu'on pousse. Beaucoup de conférences, beaucoup de... Il lui fallait que... on se rend compte qu'il faut mettre des institutions pour qu'on les mette. Et maintenant, dans les 6 ans qui viennent ici, il faut mettre des moyens
des possibilités, de voir pour que les secteurs éclosent dans l'énergie. Et pas seulement vivre aux dépens des autres qui ont augmenté tout autour de la RDC. Les gens ont augmenté leur capacité de production en fonction de la RDC. Mais nous-mêmes, nous sommes aveugles. Nous n'avançons pas beaucoup.
Merci Eric Monga. On revient à vous. Eric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, également développeur privé dans le secteur énergétique, dans un projet de 150 MW. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, également fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Que faut-il expliquer, en plus de ce que nous venons d'entendre d'Eric Monga, aux auditeurs, à la population congolaise, de cette problématique de déficit énergétique pour les entreprises minières en RDC?
Merci Radio Okapi et merci aux auditeurs. Je salue aussi les participants à l'émission avec moi, dont Eric et les autres. Je pense que ce que Eric a dit résume en principe le vrai problème. Et je peux aussi ajouter ce que, comme dans le secteur des mines, la RDC n'a pas une politique énergétique cohérente. Je prends un exemple trop simple. Après Covid, l'Afrique du Sud réalise que son secteur minier a des problèmes sérieux énergétiques. On était à Maniningaba en 2022. Le gouvernement sud-africain n'a pas traîné. Il a pris la décision de faciliter aux entreprises minières qui pouvaient produire elles-mêmes de l'énergie, de le faire juste en présentant le projet, sans toutes les autres démarches administratives. Parce qu'ils se sont dit une chose, il y a un pompe d'énergie qui est déficitaire, la population en a besoin, l'industrie en a besoin, le gouvernement ne sait pas en produire autant. Qu'est-ce qu'il faut? Le secteur est libéralisé. Il faut donner l'opportunité à ceux qui peuvent produire de l'énergie de le faire. Et ça, relancer le secteur. L'Afrique du Sud a un plan très clair en le faisant. Il s'est dit, d'ici 2030, nous devons mettre combien de gigawatts sur le marché? Et l'énergie, quand les miniers sud-africains produisent de l'énergie, sans que le gouvernement ne leur mette des taxes, de ceci, de cela, ça aide le gouvernement à sauver un peu d'énergie là pour la donner à la population. Mais chez nous, c'est ce qu'on a vu. Le problème a été sous les agents, ce n'est pas la première fois. Dès qu'il y a une initiative, ce sont des taxes qui viennent, ce sont des blocages administratifs, parfois politiques. Ce que Eric Monga n'a pas voulu vous dire, par élégant, ça c'est monsieur élégant, c'est qu'il a construit une centrale solaire, que la SNEL ne veut pas connecter au réseau. On invente des fausses raisons, juste des raisons des gens, des raisons égoïstes, alors qu'il y a, une centrale photovoltaïque qui a de l'énergie ici à Fungurume, dans le territoire de Lubudi, qui peut être connectée au mix, afin que ça puisse servir à la population. Nous avons un problème dans notre pays, et ça doit cesser. Et là, le nouveau gouvernement doit y veiller. Mais le secteur énergétique est un secteur stratégique.
Franck Flamba,
vous m'avez posé la question.
Oui, là, vous gardez la parole. La plupart des entreprises minières en RDC sont des entreprises privées. Pourquoi la balle est-elle si chaudement jetée du côté du gouvernement, alors que comme entreprise privée qui cherche du profit, les entreprises minières ont l'obligation de trouver les moyens pour fonctionner et dégager justement les finances nécessaires pour continuer à fonctionner. Pourquoi ces entreprises ne prennent pas ce déficit énergétique à leur compte et apportent des solutions à ce problème elles-mêmes?
C'est ce qu'Eric a dit, ce que j'étais en train de dire. Pourquoi est-ce que le secteur a été libéralisé? C'est parce que l'État est incapable de produire l'énergie. Mmh. Pourquoi est-ce que l'État est incapable? Ou pourquoi les miniers ne pouvaient pas le faire?
Oui,
c'est parce que l'État avait le monopole.
Oui, oui, nous comprenons très bien ce que vous dites. Nous comprenons très bien ce que vous dites. Oui, vous continuez à garder la parole.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Oui, on a l'impression que vous rejetez la balle à l'État. on a l'impression que vous rejetez la balle à l'État, mais nous l'État parlons là...
L'État doit assumer, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
S'il vous plaît. Quand TFM, quand les Américains de Tengue Fungurume, quand les Américains étaient venus de faire de signer avec Tengue Fungurume, c'était prévu que l'État devait donner l'électricité. Ce n'était pas prévu qu'il devait donner.
On comprendrait, l'État devait donner on comprendrait que
l'État doit faire
on comprendrait que les civils, que la population ordinaire réclame à l'État l'électricité et le courant, mais on comprend moins bien que les entreprises privées qui ont le devoir de fonctionner comme elles le peuvent attendent toujours de l'État que l'État puisse leur donner peut-être la quantité d'énergie qu'elles ne disposent que pour donner à la population.
Non, vous savez, bien qu'on a par exemple le projet Kibali qui a voulu fonctionner, avoir de l'électricité par lui-même parce que l'État n'en donnait pas. Mais on ne doit pas disculper l'État, on ne doit pas décharger l'État. C'est le rôle de l'État de donner de l'énergie. Les entreprises minières, leur objet social n'est pas la production de l'électricité. Le secteur a été libéralisé. Eric a été clair. Quand le secteur est libéralisé, on doit le laisser fonctionner normalement. On doit éviter les barrières, les blocages administratifs qui sont dans le secteur. On doit éviter les blocages techniques. Aujourd'hui, là, par exemple, le secteur est libéralisé. Pourquoi la SNEL a le monopole du transport de l'électricité?
Vous voulez dire, Franck Fomba,
pourquoi on ne laisse pas au privé, par exemple?
Franck Fomba, vous voulez dire que les entreprises minières privées qui souhaitent avoir de l'énergie à disposition en grande quantité souhaitent régler le problème à leur niveau, souhaitent peut-être construire les barrages, souhaitent peut-être avoir les réponses par elles-mêmes de ce besoin d'énergie et que l'État congolais les en empêche?
L'État les en empêche parce que l'État ne facilite pas les choses, l'État n'applique pas la loi normalement, l'État crie les taxes qui sont un goulot d'étranglement pour ces entreprises et l'État ne soutient pas le secteur privé, les entreprises congolaises privées, les initiatives privées qui sont dans le secteur énergétique afin de contribuer à la résolution du problème de la crise énergétique. C'est pour ça qu'on dit l'État doit s'assumer. On ne peut pas disculper l'État. Le secteur énergétique est un secteur stratégique pour l'État dans tous les pays du monde. C'est ainsi que j'ai donné l'exemple du gouvernement de l'Afrique où le gouvernement a dit, les gars, qui peut produire? Ok, vous pouvez produire avec votre projet directement, on vous donne la licence. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de ceci. Vous produisez votre énergie, vous l'utilisez et le surplus, vous nous aidez à le vendre. Vous nous aidez à le vendre pour vous, afin que la population en ait. Parce que n'oublions pas que l'industrie minière, produit déjà assez d'argent. Et quand ils doivent construire et que vous devez les surcharger, il y a un problème qui se pose. Quand je dis produire l'argent, c'est produire l'argent pour le fisc, pour le trésor public congolais. L'État doit savoir ce qu'il veut. J'ai commencé par dire que nous manquons de politique énergétique autant qu'on manque de politique minière. Quand vous prenez tous les rapports de CNUSSEC, la RDC n'est pas productrice du cobalt, c'est la Chine, ce qui est anormal. Alors que la RDC, c'est elle qui produit le cobalt non fini, mais au final, le cobalt est raffiné. Il est chinois. C'est parce que nous manquons de politique minière et aujourd'hui nous manquons de politique énergétique. Nous manquons des politiques incitatives. Le directeur général de Kibali et le directeur de Barrick et de Cyril Mutombo l'a dit calmement. Quand il y a un opérateur comme Eric Monga, comme une entreprise minière, qui dit qu'il va investir dans l'énergie, on crée une taxe et puis quelques mois après, on la multiplie fois 10. Bon, l'État veut quoi?
Merci.
Alors qu'on connaît un principe trop basique de la fiscalité, c'est que trop de taxes tuent des taxes, trop d'impôts tuent d'impôts. Donc c'est l'État qui tue le secteur.
Merci.
Il faut apprendre à être responsable et faire les choses pour que le secteur puisse aller de l'avant.
Merci Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, également fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Nous restons avec vous dans ce débat. Damien Twambilangana, directeur général adjoint de la structure publique ANSA du secteur énergétique. Vous avez entendu l'observation qu'on fait de la responsabilité du gouvernement dans le déficit énergétique accusé en ce moment-ci par les entreprises minières. Vous êtes un peu un des services de l'État qui œuvre dans ce secteur. Quelle réaction vous pouvez donner déjà sur ce que vous avez entendu et sur la responsabilité rejetée à la RDC à cause de ce problème?
Merci pour la question, mais je crois qu'il faudrait que les responsabilités puissent être partagées. Mais maintenant, il est clair que dans ce partage de responsabilités, l'État congolais devrait prendre la plus grosse part. Ça, c'est une réalité. Je vous donne quelques chiffres hein, pour vous donner une idée de ce qui se passe ailleurs. La loi des finances cette année du Sénégal, par exemple, prévoit un budget de plus ou moins 513 millions de dollars pour tous ces projets d'électrification rurale et périurbaine. Et au même moment, chez nous, c'est 20 millions qui sont prévus. Anser, par exemple, a reçu les deux dernières années 23 millions de dollars, ça veut dire 13 millions et 10 millions. Vous avez la Côte d'Ivoire qui planifie avoir investir plutôt 220 millions pendant que nous, on investit 10 millions. Et dans tous les autres pays où on a vu le secteur se développer, il y a eu quand même une implication très importante de l'État. Donc, la première chose, et c'est vrai, il faudrait qu'effectivement l'État puisse prendre ses responsabilités pour pouvoir définir des stratégies claires par rapport à au secteur minier. Mais il faudrait aussi que de l'autre côté, que la FEC, par exemple, qui est évidemment qu'il y a une chambre des mines, hein, je parle du patronat dans le secteur minier, qui ont un certain pouvoir financier. Je crois que ce serait important que les projets miniers deviennent intégrés, c'est-à-dire un entrepreneur qui veut se développer dans le secteur des mines devrait intégrer automatiquement ce que ses besoins en fait en termes d'énergie. Et pour ça, il faudrait effectivement qu'il y ait des débats aussi autour de ces entreprises pour pouvoir mettre en place les stratégies qui leur sont propres.
Damien Toambilangana.
Oui.
Damien Toambilangana, sauf si je me trompe, hein, vous êtes bien une structure de l'État congolais, notamment pour agir dans le secteur de l'énergie, non?
Oui, nous sommes une structure de l'État pour agir, et c'est pour cela que j'en parle de manière la plus claire, parce que je suis une structure de l'État, mais je dépends aussi de la dotation de l'État. Donc je dépends aussi de certaines redevances. Je suis dans la mission de l'ANSER. Nous sommes appelés évidemment à mobiliser le secteur privé, qui devrait aussi venir trouver un certain climat, certaines conditions pour pouvoir être motivé à avancer.
Damien Toambilangana, en fait, je vous interpellais tout à l'heure pour justement fixer l'auditeur et ensuite poser la question qui allait suivre. C'est que vous avez certainement entendu Eric Monga expliquer que le secteur minier a besoin de à peu près 10 gigawatts. Pour pouvoir fonctionner correctement, ce qui fait perdre à la RDC notamment 1 milliard de dollars chaque année sur base de ce besoin, et que le pays ne leur donne que à peine 3 gigawatts hein, de puissance d'électricité pour sur les 10 attendus. Sur quelle base, sur quel terme l'État de la RDC s'est-il entendu avec les miniers pour leur apporter son soutien, pour être à leur accompagnement dans cette question de production énergétique? Et vous qui travaillez dans ce secteur, qu'est-ce que la RDC a prévu pour remédier directement et concrètement à ce problème au jour où nous parlons?
Ben écoute, il est quand même clair que le secteur minier représente quand même plus de 50% du PIB. Dans notre pays, il est aussi clair que le secteur de l'énergie a été libéralisé, mais le fait que le secteur minier apporte beaucoup dans le PIB du pays, il est important que l'État puisse mettre en place des stratégies, d'où aussi la création de l'ANSER. Et alors, aujourd'hui, les besoins des miniers vont au-delà de 2000 mégawatts, comme l'a dit notre frère Eric. Et là, il faut différentes stratégies. Au niveau de l'ANSER, par exemple, nous, en fait, notre mission, c'est pouvoir électrifier les zones rurales et périurbaines. Mais nous intégrons une stratégie aussi en rapport avec le secteur minier, parce que pour nous, la production de l'énergie, c'est pas que pour l'électricité, mais c'est aussi pour que ça puisse booster le développement socio-économique des zones concernées, améliorer le pouvoir d'achat et tout ça. Donc, en termes de stratégie, il est important que dans les plans que nous mettons en place, que différentes alternatives, différentes solutions techniques soient développées. Je prends le cas simple de la centrale solaire de M. Kipai, qui produit, je pense, plus ou moins 5 mégawatts. Et c'est de l'énergie, c'est pas beaucoup par rapport aux besoins des miniers, mais je parle juste en termes de principes techniques. Il faudrait que nous puissions construire des grandes centrales avec la possibilité d'injecter dans les réseaux et que, d'une part, les miniers peuvent en bénéficier et puis, naturellement, nous desservons aussi la population. Nous avons beaucoup de sites. Nous avons déjà identifié plus de 1000 sites et des sites hydrauliques représentent plus ou moins 40% avec des grands potentiels. Il faudrait que tout un plan, les plans locaux d'électricité que nous avons, les mettre en œuvre pour développer ces sites avec des différents projets de 10 MW, 5 MW, 20 MW, mais de manière assez décentralisée pour pouvoir appuyer les secteurs, non seulement miniers, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des populations. Il faudrait construire beaucoup de centrales. Mais pour cela, il y a deux choses. L'État doit prendre ça très au sérieux. Lorsqu'on dit que le secteur de l'énergie est un secteur stratégique, il devrait être considéré aussi stratégique que le secteur de la défense, par exemple. Et comprendre que l'énergie, l'électricité, c'est un intrant. Ça ne peut pas être un programme tout court, mais c'est une condition sine qua non à tout développement. Et l'État devrait pouvoir vraiment prendre ça beaucoup plus au sérieux. Nous sommes lancés dans une campagne pour sensibiliser les décideurs politiques. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un outil de l'État, mais nous dépendons aussi des dotations de l'État. Une campagne pour sensibiliser les décideurs à pouvoir comprendre le niveau stratégique de l'électricité et voir comment est-ce que, comme d'autres pays le font, mobiliser davantage, mettre sur la table beaucoup plus de moyens et puis avoir la capacité de pouvoir lever de fonds au niveau international grâce déjà à ce que l'État met sur la table. Donc Damien il y a une sensibilisation à faire à ce niveau, oui.
Damien Tombilangana, merci, nous revenons à vous tout à l'heure dans ces débats, le temps d'ouvrir le standard pour que de nombreux auditeurs qui nous suivent à travers nos plateformes digitales mais aussi en FM puissent réagir. Et à ce titre, Eric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, également développeur privé dans le secteur énergétique dans un projet de 150 MWh. Pour vous, vous allez tendre l'oreille et écouter cet auditeur qui nous appelle de Lubumbashi. Ensuite, vous pouvez faire votre réaction.
Je me nomme Chris Pierron Pagnan, depuis la ville de Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Nous saluons tout d'abord la tenue de ces assises, bien qu'il y sort de bonnes recommandations et réflexions en ayant dit plus souvent par le décideur dans cet espace Grand Katanga, dont le forum DRC Mining Week, tenu vendredi dernier, n'était pas le premier à être organisé. Avant d'accuser le puits d'être profond, il faut regarder si c'est pas sa corde qui est courte, dit un proverbe africain. Comment expliquer que le barrage Dinga qui passe sur le Grand Katanga ne peut pas, dans 20 ans de réalisation des projets en cours, pallier aux problèmes d'énergie dont plusieurs entreprises font face? À Kolwezi, dans la province de Lualaba, une entreprise minière a déjà fini la construction d'un barrage hydroélectrique. Si ce barrage ne sert pas à la population, comment cette entreprise ne peut pas servir aux autres miniers du contrée qui sont en voie de fermeture de leurs entreprises faute de l'énergie? Quand on est dans des difficultés de finir avec les problèmes énergétiques dans les grands Katanga en général, comment peut-on penser à la transformation de nos produits miniers au pays, ce qui favorisera la réduction du chômage des jeunes d'une province dite plus riche?
Éric Monga, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. J'ai une double réaction à ce sujet. Quand j'ai parlé de 10 gigawatts, je n'ai pas tenu compte seulement du problème de besoin minier. J'ai tenu compte du besoin de trois secteurs miniers, donc l'industrie lourde, le secteur industriel et aussi du social dans toute la République démocratique du Congo. Et que pour atteindre ce besoin-là, il faut encore beaucoup plus d'investissement et beaucoup plus de temps aussi de réalisation. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le modèle économique qui est très important. Lorsque le secteur minier a de l'énergie, automatiquement, les trois autres secteurs
ont aussi de l'énergie. On en a vu depuis le temps coloniaux avec la Gécamine dès qu'elle s'était installée, lorsqu'elle donnait du courant dans la ville. Je donne un exemple de Kakanda. Eh bien, il n'y avait pas que seulement la mine de Kakanda qui en bénéficiait. Mais c'était toute la population aussi à des temps bien prévus. Et c'est ce modèle-là que nous privilégions. Mais le plus important, c'est, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Chacun a son corps de métier. Ne demandez pas au secteur minier de faire l'énergie. Il y a un secteur énergétique. Il y a des professionnels de l'énergie. Eh bien, nous devons être complémentaires. Les mines ont besoin de l'énergie. Eh bien, il y a des développeurs en énergie qui vont pouvoir, à ce besoin-là, que ce soit l'État ou, en faveur de la libéralisation, le secteur privé. On n'allait pas demander au secteur minier d'aller aussi faire dans les mines. Non, non. Dans l'énergie ou dans l'agriculture ou dans notre pays, ils peuvent peut-être prendre des participations, ils peuvent puis financer, et on a besoin de leur financement, on a besoin qu'ils nous donnent des contrats afin que nous puissions développer aussi de l'autre côté. Il faut faire la part des choses, et la loi interdit celui qui a un titre minier, eh bien il fait la portée d'un titre minier, il n'y a pas l'énergie dedans.
Éric Monga, Éric Monga, la RDC dispose d'un barrage qui n'est plus à présenter, mais qui est souvent présenté comme un ouvrage qui peut desservir l'Afrique entière, voire une très bonne partie de l'Afrique. Qu'est-ce qui empêche les entreprises minières d'utiliser, moyennant paiement ou moyennant contrepartie, je ne suis pas entrepreneur pour savoir quelle technique utiliser pour séduire suffisamment l'État, mais les grandes mastodontes que sont les entreprises minières ont le personnel requis et compétent pour savoir comment négocier. Qu'est-ce qui ne marche pas pour que les entreprises minières, si elles ne peuvent pas elles-mêmes construire leurs outils de production d'énergie, qu'elles se connectent avec facilité sur les ouvrages déjà existants en République démocratique du Congo, dont notamment le barrage d'Inga?
Vous allez parler de Inga. Inga 1 et Inga 2, tous les deux ne peuvent pas desservir le besoin du secteur tant social, économique que minier.
Pour le moment, oui. Pour le moment, oui, mais dans son potentiel.
Il faut construire.
Dans son potentiel.
Dans son potentiel, il faudrait effectivement, et là vous avez tout à fait raison, il faudrait que, un, au départ, dans la spirale, que les sociétés minières qui en ont besoin avec la vision puissent donner des contrats d'achat au projet Inga pour que d'ici 4, 5 à 10 ans, ils puissent avoir de l'énergie. On peut commencer par dire qu'on ne donne pas l'importation de l'énergie tant qu'on n'a pas souscrit chez Inga, tant qu'on n'a pas souscrit chez les développeurs privés. Et c'est une loi tout à fait simple. C'est une loi tout à fait simple d'obliger le secteur minier de souscrire à l'achat du courant qui va être produit à Inga dans X années. Pas seulement à Inga, et aussi aux développeurs privés. Sinon, nous serons dépendants de l'étranger. Et quand on nous dit dépendants de l'étranger, l'étranger contrôlera notre économie si nous ne livrons qu'à l'importation. L'importation, c'est une solution court terme, mais pour avoir une solution durable, il faut donner les contrats.
Merci.
Il faut que les durées de mine ont un peu plus de 20 ans et qu'on donne un contrat aujourd'hui pour que ça commence à avoir une action dans les 10 ans, eh bien nous allons construire notre Inga 3. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, nous Congolais, nous-mêmes, la faute est à nous les Congolais, si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne construira Inga à notre place. On doit faire le déclic. Des clics patriotiques pour qu'on construise notre Inga.
Merci Éric Monga. Nous revenons à vous tout à l'heure pour que vous puissiez nous dire de manière concrète comment justement nous pourrons résoudre ce problème. Vous avez déjà donné les principes qui peuvent orienter vers la réponse, mais tout à l'heure vous allez nous dire en deux, trois mots concrètement comment il faut y arriver puisque les entreprises minières sont déjà en train de fonctionner et elles doivent fonctionner et obtenir les résultats dans leurs investissements. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, également fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le développement. Concrètement, vous avez écouté l'ajout tout à l'heure de Eric Monga. Vous pensez que la solution pour que les entreprises minières soient en état de fonctionner correctement et tirer le maximum de profit à leur investissement, il faut procéder par les solutions proposées tout à l'heure par Eric Monga.
Absolument, absolument. Prenons aujourd'hui notre secteur énergétique, et minier plutôt, importe de l'énergie pour combien d'argent? Eric a parlé de c'est plus du milliard de dollars. Mais imaginez que si le milliard de dollars là était investi graduellement, chaque année en RDC, pour Inga par exemple, et aussi pour d'autres producteurs et investisseurs dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, je trouve anormal, personnellement, que les sociétés minières du Katanga importent du courant de la Zambie, des sociétés privées zambiennes importent du courant du Congo-Brazzaville, alors qu'il y a des Congolais sur place ici qui ont des projets, personne ne s'intéresse, on ne le donne pas. Et ça fait partie, en fait, de la sous-traitance sur laquelle M. Miguel Katem devait aussi se battre pour que des contrats soient donnés et aux Congolais, et aux privés congolais, aux entreprises congolaises, publiques qui peuvent faire le travail. Vous savez, je reprends que le secteur énergétique est stratégique. Nous devons apprendre comment les autres font ailleurs pour le contrôler. Nous prenons du courant de la Zambie. Est-ce que la Zambie a Inga? La Zambie n'a pas Inga. Mais comment la Zambie fait pour produire l'électricité et nous prendre la mine en RDC? Le Congo Brazzaville n'a pas Inga.
Franck Fromba, vous gardez la parole. Vous gardez la parole, Franck Fromba. Vous gardez la parole. Nous donnons la parole à cet auditeur qui nous appelle de Kolwezi. Ensuite, vous complétez votre idée.
Moi, c'est Dieudonné Bangéfi. J'interviens depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. En fait, moi personnellement, j'ai comme l'impression que cette problématique du déficit en énergie électrique pour les miniers dénote une mauvaise politique mise en place par le gouvernement via son ministère du système, qui est bien entendu le ministère de l'énergie. Or, les recettes issues de la redevance minière constituent une grande partie de notre budget. De ce fait, j'avoue d'ores et déjà éprouvé d'énormes difficultés pour digérer cette négligence de trop de la part du gouvernement congolais qui ne cesse de nous présenter le vœu de mobiliser activement les recettes consistantes pour le développement de ce pays dans un délai raisonnable. Cependant, moi je pense que pour remédier à cette situation, ces opérateurs miniers doivent, en collaboration avec ce même gouvernement, se prendre en charge dans le but d'investir dans les infrastructures de fourniture de l'énergie. Faute de quoi, attendre que ceci soit fait par l'État congolais, qui est pourtant improductif que jamais ces derniers temps, c'est attendre les trains à l'aéroport qu'ils ne verront jamais, alors jamais.
Franck Fromba, votre réaction?
Je comprends le souci de l'auditeur qui a parlé, mon confrère, mon concitoyen de Kolwezi, mais comme aussi Eric venait de le dire, on doit lire la loi, qui dit la loi. La loi a dit qu'une société minière, son objet social c'est les mines, et ne peut pas faire les mines et l'énergie. Si elle veut faire l'énergie, il doit y avoir une autre société qui est créée. C'est ainsi que vous verrez que toutes les sociétés minières qui ont investi dans l'énergie, ce ne sont pas elles-mêmes, ce sont d'autres sociétés qu'elles ont créées pour le faire. Les minières viennent faire les mines, ils ne viennent pas produire de l'énergie. Mais si ils disent, ok, ils se comportent en patriotes ou aux gens qui soutiennent la politique congolaise doit commencer par être cohérente, c'est ce qu'on a dit, elle doit commencer par être sérieuse. Prenons, nous avons la centrale de Mpianamwanga. Quand les aides power devaient réhabiliter, il y a même un mémorandum qui a été signé en accord avec le gouvernement congolais. Mais ça fait plus de 3 ans que cette centrale-là devait être réhabilitée, qui n'a pas été faite à cause des décisions politiques du gouvernement. Ce sont des questions réelles. On ne va pas demander, on insiste, il y a des producteurs, il y a des gens comme les Monga, il y a des gens comme les Yves Kabongo, les John Canyoni, il y en a d'autres qui investissent dans le secteur. Ce sont des pionniers sur lesquels le gouvernement devait se baser pour travailler, sur lesquels tout le monde devait chercher à créer, structurer une politique cohérente énergétique pour voir ce qui peut être fait afin de produire de l'électricité.
Yinga. Eric donne une solution, par exemple, trop pratique pour Yinga. Il dit, OK, si l'argent qui est mis dans, l'argent qui est mis dans les importations de l'électricité, si on commençait par obliger à toutes ces entreprises, demander à toutes ces entreprises, faire appliquer la loi, que les entreprises qui importent l'électricité puissent travailler avec ceux qui gèrent le projet Yinga. Mais les choses vont marcher. Mais ça, ce ne sont pas les privés, le secteur privé, les miniers qui vont le faire. Ça, c'est le gouvernement qui doit avoir les initiatives.
Merci.
C'est là que je reprends, je dis que, comme dans le secteur des mines aujourd'hui, nous produisons plus d'un million 500 000 de tonnes de cuivre, mais on n'a qu'une petite entreprise que tout le monde ne veut pas soutenir, qui produit des câbles électriques. Congo Cable qui a le bon marché. C'est ça normal. Nous avons un potentiel énergétique, mais on ne veut pas soutenir les projets, les initiatives, les projets des Congolais, les initiatives nationales pour que ça passe de l'avant.
C'est
le problème des politiques gouvernementales.
Franck Lomba.
C'est pas le politique des investisseurs. Et il faut de l'argent. Je suis en train de finir, d'écouter. Il faut de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait une politique claire.
Franck Lomba.
Il faut qu'il y ait un climat des affaires clair.
Nous allons vous écouter.
L'obligation du gouvernement, non pas des investisseurs.
Nous allons vous écouter tout à l'heure pour la dernière phrase de conclusion. Ne terminez pas tout seulement maintenant. Damien Twambilangana, directeur général adjoint de la structure publique ANSER, du secteur énergétique. Nous allons écouter pour vous, cet auditeur qui nous appelle de Mbujimaï. Ensuite, vous pouvez réagir notamment à tout ce que vous avez entendu jusqu'ici.
C'est Michel depuis Mbujimaï. Le déficit en énergie électrique, pour le moment, est un problème majeur pour les entreprises minières du Grand Katanga en RDC. Cela leur fait perdre beaucoup d'argent et les rend dépendants de l'importation d'électricité. Pour pallier ces problèmes, on doit investir massivement dans la construction de nouvelles centrales électriques, notamment dans des centrales hydroélectriques et pourquoi pas l'énergie solaire. On doit également moderniser et étendre les réseaux de transport et de distribution d'électricité dans les zones minières pour améliorer la desserte. On doit également encourager les initiatives de production d'électricité locale par les entreprises minières elles-mêmes, via des centrales privées par exemple. On doit également favoriser les partenariats publics-privés pour le financement et la réalisation des grands projets énergétiques dans la région minière. On doit également mettre en place des politiques et incitations adaptées pour attirer les investissements dans le secteur électrique.
Damien Twambilangana, qu'est-ce que vous pensez notamment des propositions de cet auditeur, mais aussi des différentes pistes de solutions qui sont déjà déballées depuis le début de cette émission par les différents co-débatteurs?
Oui, je pense que l'auditeur de tout à l'heure a été clair et précis. J'adhère effectivement aux propositions qu'il fait. Donc je voudrais renchérir sur l'aspect du secteur privé. Par exemple, je prends le cas de Yinga qui aujourd'hui, en termes de puissance installée, ça ne dépasse pas les 1800 MW, alors que les besoins au niveau des sociétés minières dépassent les 2000 MW. Mais investir dans Yinga 3, par exemple, qui projette plus ou moins 4800 ou 5000 MW, on parle en termes des milliards de dollars. Et là, je pense qu'il faut impérativement voir aussi avec le secteur privé, c'est-à-dire tous les investisseurs intéressés par le secteur, intéressés par le projet Yinga et tout ce qui est comme impact. Ça, il faut aussi activer de ce côté-là, mobiliser le secteur privé local ou international. La deuxième chose, c'est inévitable. Il faudrait que l'État investisse. Il faut toute une politique d'investissement dans ce secteur qui est stratégique. Il y a aujourd'hui de nouvelles technologies dans le secteur de production d'énergie. Ce sont des technologies qui peuvent être déployées à différents endroits. Il faudrait construire beaucoup de centrales, même de petite puissance, mais seulement de manière calibrée par rapport aux besoins non seulement de la population, mais aussi du secteur minier. Au-delà de cela, nous avons quand même le FPI qui existe. Le FPI, le Fonds de Promotion Industrielle, qui a aussi certaines dotations, il faut aussi le renforcer parce que la mission du FPI, c'est non seulement financer des petits projets dans les secteurs de l'industrie, mais aussi le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, ANSER et FPI sont en voie de signer un MOU
qui va effectivement permettre que Anser, en se déployant dans ces zones rurales et périurbaines, voit la possibilité d'apporter de l'électricité profitable aussi au secteur minier, mais aussi de pouvoir développer aussi toutes les autres petites industries. Je pense qu'il faudrait une véritable volonté, et non seulement politique mais stratégique, mais aussi entrer en action. J'insiste, je reviens sur l'interpellation que je faisais aux entreprises elles-mêmes. Monsieur Eric a donné une proposition sur tout ce qui peut être la vente de l'électricité, mais il est très important que les miniers eux-mêmes, ajoutés à d'autres entreprises dans le secteur de l'énergie, qu'il y ait vraiment une sorte de table ronde ou des états généraux du secteur, pour voir dans quelle mesure ils peuvent directement s'impliquer, ils peuvent trouver eux-mêmes des solutions sur lesquelles finalement l'État viendrait aussi s'impliquer pour que cela soit efficace.
Voilà. Alors Damien Toambilangana, directeur général adjoint de la structure publique Anser du secteur énergétique, nous sommes en train de conclure cette émission. Les miniers ont posé le problème de déficit énergétique. Ils ont des besoins à couvrir avec l'énergie électrique que l'État n'arrive pas à mettre à leur disposition. Ça fait 10 ans, voire plus, que ce problème est posé. Soyons concrets. Vous êtes une structure, peut-être pas la seule, mais qu'est-ce que l'État, dans sa politique, prévoit, notamment avec vous, Anser, et les autres, de mettre en place pour que demain, dans un mois, dans 3 mois, maximum une année, que ce problème de déficit énergétique prenne fin et que les miniers puissent travailler tranquillement et faire les recettes dont ils ont besoin.
Ben, je reviens sur ce que j'ai dit. Il nous faut 2000 mégawatts, même au-delà, pour desservir non seulement les miniers et aussi desservir la population. Il nous faut plus de 2000 mégawatts. Et pour ça, il faut investir. La question, qui doit investir? L'État doit investir. Et l'État doit investir, il faut que le secteur privé vienne aussi être impliqué.
L'État, il n'y a pas beaucoup. L'État pense le faire quand?
Je donne des pistes. En parlant de Anser, l'État, évidemment, stratégiquement, a mis en place des structures comme Anser pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes d'électricité, mais évidemment avec à une échelle assez réduite aussi, parce qu'on parle zone rurale périurbaine. La stratégie que nous on met en place aujourd'hui, parce que comme je disais tout à l'heure, nous recevons aussi la dotation de l'État qui n'est pas suffisante. Donc c'est d'entrer dans une campagne, dans une démarche stratégique, mais dans laquelle devraient nous accompagner à la fois les privés, à la fois la société civile, pour amener finalement l'État à mobiliser beaucoup plus de moyens pour que le secteur puisse connaître de bons investissements. Sans investissement, on n'aura pas les 2000 mégawatts. Donc aujourd'hui, à notre échelle, à nous, nous développons des centrales. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de projets qui sont en cours, 10 qui sont terminés, mais c'est vraiment à des petites échelles. Mais la dimension minière demande qu'il y ait des investissements, et là, nous sommes dans une campagne pour essayer de mobiliser davantage, mais nous devons être accompagnés par et le secteur privé et évidemment la société civile. Voilà.
Merci Damien Toambilangana. Franck Fouamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, également fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Nous sommes en train de conclure, pour vous aussi en quelques mots. Vous venez de constater qu'il y a des projets au niveau public, mais que ces projets ne risquent pas d'arriver dans un mois ou 2 mois. Ça va certainement prendre du temps, mais les miniers doivent continuer de fonctionner et de produire de l'argent et des résultats. Qu'est-ce que vous recommandez de faire dans ce cas?
Je pense qu'il y a eu plusieurs conférences liées sur Mining Week et il y a eu des panels parlant de l'énergie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Monsieur Eric Monga lui-même, là, il a lancé, ça fait des années, une conférence nationale sur l'énergie qui parle des questions d'énergie. Les membres du gouvernement y participent, les membres des institutions. Mais le problème, c'est un problème de volonté politique, de passer à l'action. Passer à l'action en assainissant le climat des affaires. Passer à l'action en créant des conditions pour que le secteur qui a été libéralisé puisse fonctionner normalement. Passer à l'action aussi en mettant fin à l'impunité dans le secteur. Passer à l'action en faisant comprendre, par exemple, à la SNEL qui n'a plus le monopole. Passer à l'action en travaillant avec le secteur privé et les autres secteurs, parce que ça nécessite de l'argent pour que les gens viennent investir. Passer à l'action
comme je dis, en mettant fin à l'impunité, en arrêtant que la justice puisse sévir contre les gens qui mettent du désordre dans les secteurs ou les gens qui font mal. Passer à l'action, en mobilisant la communauté nationale, afin qu'elle puisse comprendre de l'intérieur qu'il s'agit d'un secteur stratégique et que tout le monde doit travailler pour les intérêts du pays, afin que la question soit résolue. L'énergie, on n'en a pas d'abord besoin pour les mines.
Merci à vous.
On en a besoin pour la population.
Merci.
Nous avons un potentiel.
Merci. Vit dans l'obscurité. Merci Franck Fouamba. Eric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, également développeur privé dans le secteur énergétique, dans un projet de 150 mégawatts. En attendant que le gouvernement, on l'espère le plus tôt possible, réponde favorablement et donne les ouvrages opérationnels pour favoriser le travail des entreprises minières, qu'est-ce que vous, en tant que entreprise, en tant que patronat de la République démocratique du Congo, vous allez faire d'ici demain, après-demain, pour justement participer à activer l'action du gouvernement le plus tôt possible?
Merci beaucoup. Pour moi, c'est coaliser les efforts. On doit travailler ensemble. On ne doit pas jeter le pauvre brossement sur le gouvernement ni un secteur quelconque. Je sais que le gouvernement a fait quelques efforts, mais c'est quand même assez faible. 400 mégawatts sur 40 ans pour la RDC, ce n'est pas significatif. La loi est là, mais nous devons coaliser les efforts, regarder dans la même direction pour alléger, trouver des solutions avec cette initiative de faire un pool d'opérateurs du secteur ensemble avec l'État congolais, se mettre ensemble afin de réfléchir pour faire une feuille de route et y arriver. C'est encore possible. Pour moi, j'ai beaucoup d'espoir pour que le futur soit encore beaucoup plus intéressant parce que tout le monde, j'ai l'impression que l'étincelle est là et tout le monde s'y met pour l'instant. Et je crois que avec des petits efforts, on doit juste augmenter les efforts et ça va aller.
Merci Eric Monga, tout comme à Franck Fouamba et à Damien Twambilangana pour votre présence à cette édition. Billy Landry Betou, Guy Maté et Hervé Voka m'ont aidé à produire cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.